Marguerite Audoux, Marie-Claire, troisième partie. Les nouveaux fermiers arrivèrent le lendemain. Les laboureurs et la servante étaient venus dès le matin, et lorsque, le soir, les maîtres entrèrent dans la maison, je savais qu'on les appelait Monsieur et Madame Alphonse. Monsieur Tirande resta 2 jours à Villevieille et partit après m'avoir rappelé que j'étais au service de sa bru et que je n'aurais plus à m'occuper des travaux de la ferme. Dès la première semaine, Madame Alphonse avait fait transformer la chambre d'Eugène en lingerie, et elle m'avait aussitôt installé devant une grande table sur laquelle étaient plusieurs pièces de toile que je devais transformer en linge de toutes sortes. Elle venait s'asseoir près de moi pour faire de la dentelle. Elle restait des journées entières sans me dire un mot. Quelquefois, elle me parlait des armoires pleines de linge de sa mère. Sa voix était sans timbre, et sa bouche remuait à peine pour parler. Monsieur Tirande paraissait beaucoup aimer sa bru. Chaque fois qu'il venait, il s'informait de ce qu'elle pouvait désirer. Elle n'aimait que le linge. Alors il partait en promettant d'acheter d'autres pièces de toile. Monsieur Alphonse ne paraissait guère qu'aux heures de repas. J'aurais été bien en peine de dire à quoi il employait son temps. Son visage me rappelait celui de la supérieure. Il avait comme elle la peau jaune et les yeux brillants. On eût dit qu'il portait en lui un brasier qui pouvait le consumer d'un moment à l'autre. Il était très pieux, et chaque dimanche, il partait avec Madame Alphonse à la messe du village qu'habitait Monsieur Tirande. Au commencement, ils voulurent m'emmener dans leur voiture, mais je refusais, préférant aller à Sainte-Montagne où j'espérais rencontrer Pauline ou Eugène. Quelquefois, un des laboureurs venait avec moi, mais le plus souvent, je m'en allais seul par un chemin de traverse qui diminuait de beaucoup le trajet. C'était un chemin rude et pierreux qui grimpait sur la colline à travers les genêts. À l'endroit le plus élevé, je m'arrêtais devant la maison de Jean le Rouge. Cette maison était basse et profonde. Les murs étaient aussi noirs que le chaume qui la recouvrait, et on eût pu passer à côté sans la voir, tant les genêts qui l'entouraient étaient hauts. J'entrai pour dire bonjour à Jean le Rouge, que je connaissais depuis que j'étais à la ferme de Villevieille. Il avait toujours travaillé pour maître Sylvain, qui le tenait en grande estime. Eugène disait qu'on pouvait le faire toucher à tout et qu'avec lui, les choses étaient toujours bien faites. Maintenant, Monsieur Alphonse ne voulait plus l'occuper. Il parlait de le renvoyer de la maison de la colline. Jean le Rouge en était si affecté qu'il ne pensait plus qu'à cela. Aussitôt après la messe, je revenais par le même chemin. Les enfants de Jean m'entouraient pour avoir le pain béni que je leur rapportais. Ils étaient 6, et l'aîné n'avait pas encore 12 ans. Mon pain béni n'était guère plus gros qu'une bouchée. Aussi je le remettais à la femme de Jean qui le distribuait en parts égales. Pendant ce temps, Jean le Rouge apportait pour moi un escabeau devant le feu, et il s'asseyait lui-même sur une rondelle de bois qu'il roulait du pied jusqu'à la cheminée. Sa femme ramenait les brindilles dans le feu avec de lourdes pincettes. Et dans le chaudron pendu à la crémaillère, on voyait cuire de grosses pommes de terre jaunes. Dès le premier dimanche, Jean le Rouge m'avait dit « Je suis aussi un enfant abandonné. » Et peu à peu, il m'avait appris qu'à l'âge de 12 ans, on l'avait placé chez le bûcheron qui habitait déjà la maison de la colline. Il avait su très vite grimper au sommet des arbres pour y attacher la corde qui devait les faire pencher. Puis, la journée finie et son fagot de bois sur le dos, il partait en avant pour arriver plus vite à la maison où il trouvait la petite fille du bûcheron en train de faire la soupe. Elle était du même âge que lui et ils étaient devenus tout de suite de bons amis. Puis, le malheur arriva, un soir de Noël. Le vieux bûcheron, qui croyait les enfants bien endormis, s'en alla à la messe de minuit. Mais eux s'étaient levés aussitôt après son départ. Ils voulaient préparer le réveillon pour le retour du vieux, et ils se faisaient une joie de sa surprise. Pendant que la fillette faisait cuire des châtaignes et mettait sur la table le pot de miel et la cruche de cidre, Jean le Rouge préparait un feu de grosses bûches. Du temps passa, les châtaignes étaient cuites, et le bûcheron tardait à rentrer. Les enfants s'assirent par terre devant le feu pour avoir plus chaud, et ils finirent par s'endormir en s'appuyant l'un contre l'autre. Jean se réveilla au cri que poussait la petite fille. Il ne comprit pas tout d'abord pourquoi elle levait les bras si haut devant la flamme. Comme elle sautait sur ses pieds pour s'enfuir, il vit qu'elle brûlait. Elle avait déjà ouvert la porte du jardin et elle courait en éclairant les arbres. Alors Jean l'avait saisie et jetée dans la fontaine de la source. Le feu s'était éteint tout de suite, mais lorsque Jean voulut la sortir de la fontaine, il la trouva si lourde qu'il crut qu'elle était morte. Elle ne faisait aucun mouvement et il mit longtemps à la tirer de l'eau, puis il la ramena à la maison en la traînant comme un fagot. Les grosses bûches étaient devenues des braises rouges. Seule, la plus grosse, qui était humide, continuait à fumer et à grésiller. Le visage de la petite fille n'était plus qu'une énorme boursouflure noire et violacée, et son corps à moitié nu laissait voir de larges taches rouges. Elle resta de longs mois malade, et quand enfin on la crut guérie, on s'aperçut qu'elle était devenue muette. Elle entendait très bien, et elle pouvait même rire comme tout le monde, mais il lui était impossible d'articuler un seul mot. Pendant que Jean le Rouge me racontait ces choses, sa femme le regardait en remuant les yeux, comme si elle lisait un livre. Son visage portait des traces profondes de brûlure, mais on s'y habituait très vite, et on ne voyait plus que sa bouche aux dents blanches et ses yeux un peu inquiets. Elle appelait ses enfants en faisant entendre un éclat de voix prolongé, et les petites accouraient, comprenaient tous ses gestes. J'étais désolé aussi de leur voir quitter la maison de la colline. C'étaient les derniers amis qui me restaient, et l'idée m'était venue de parler d'eux à Madame Alphonse, dans l'espoir qu'elle obtiendrait de son mari qu'il veuille bien les garder. Je trouvai l'occasion, un jour que M. Tirande et son fils étaient entrés dans la lingerie en parlant de changements à faire à la ferme. M. Alphonse ne voulait pas de troupeaux. Il parlait d'acheter des machines agricoles, d'abattre les sapins et de défricher la colline. Les étables serviraient de remise pour les machines, et la maison de la colline deviendrait un grenier à fourrage. Je ne sais si Madame Alphonse entendait. Elle travaillait à sa dentelle avec une grande attention. Aussitôt que les deux hommes furent sortis, j'osai parler de Jean le Rouge. J'expliquai combien il avait été utile à Maître Sylvain. Je dis son chagrin de quitter cette maison qu'il habitait depuis si longtemps. Et quand je m'arrêtai, tout angoissé de la réponse qui allait venir, Madame Alphonse retira son crochet du fil et dit « Je crois que je me suis trompé d'une maille. » Elle compta jusqu'à 19 et elle ajouta « C'est ennuyeux, il faut que je défasse tout un rang. » Quand je rapportai cela à Jean le Rouge, il eut un mouvement de colère qui lui fit tendre le poing vers Villevieille. Mais sa femme lui mit la main sur l'épaule en le regardant. Aussitôt Jean se calma. Jean le Rouge quitta la maison de la colline à la fin de janvier et une profonde tristesse entra en moi. Maintenant, je n'avais plus d'amis. Je ne reconnaissais plus la ferme. Tous ces gens s'y mettaient à leur aise et il me semblait que c'était moi la nouvelle venue. La servante me regardait avec méfiance, et les laboureurs évitaient de me parler. La servante s'appelait Adèle. Tout le jour, on l'entendait bougonner et traîner ses sabots. Elle faisait du bruit même quand elle marchait sur la paille. À table, elle mangeait debout, et elle répondait sans politesse aux observations des maîtres. Monsieur Alphonse avait fait enlever le banc de la porte et mettre à sa place des petits arbustes verts qu'on avait enclos d'un treillage. Il avait fait aussi enlever le vieil orme où la hulotte était venue chanter les soirs d'été. Il devait y avoir longtemps que le vieil arbre ne donnait plus d'ombrage au seuil de la maison. Il ne portait plus qu'un bouquet de feuillage tout en haut, et cela lui faisait comme une tête qui se penchait pour écouter ce qui se disait en bas. Les bûcherons qui vinrent pour l'abattre furent d'avis que cela ne serait pas facile. Ils menaçaient en tombant de démolir la toiture de la maison. Enfin, après bien des discussions et bien des tours autour de lui, on décida de l'enserrer de grosses cordes qui le feraient pencher et l'obligeraient à tomber sur le fumier. Il fallut la journée de deux hommes pour l'abattre, et au moment où on croyait qu'il allait se coucher tranquillement, une des cordes se desserra et le vieil orme se releva pour retomber de côté. Il glissa sur le toit en entraînant la cheminée et une grande quantité de tuiles, et après avoir écorché le mur, il se coucha en travers de la porte, et pas une de ses branches ne toucha le fumier. Monsieur Alphonse ne put retenir un cri de colère. Il saisit la hache d'un des bûcherons et il frappa l'arbre d'un coup si violent qu'un morceau d'écorce sauta dans la fenêtre de la lingerie et cassa un carreau. Madame Alphonse vit des éclats de verre tomber sur moi et elle se leva avec une vivacité que je ne lui connaissais pas et, avec des mains tremblantes et des yeux peureux, elle examina minutieusement chaque endroit de la nappe que j'étais en train de broder. mais elle ne vit pas que j'essuyais avec mon mouchoir une petite coupure que le verre m'avait faite à la joue. Elle eut si peur qu'il n'arrivât malheur aux piles de linge qui commençaient à s'entasser, qu'elle m'emmena le lendemain chez sa mère pour me faire voir comment il fallait ranger les armoires. La mère de Madame Alphonse s'appelait Madame Deloy, mais quand les laboureurs parlaient d'elle, ils disaient toujours « la bourgeoise du château ». Elle n'était venue qu'une fois à Villevieille. Elle s'était approchée de moi, m'avait regardé de très près en clignant des yeux. C'était une grande femme qui marchait courbée, comme si elle cherchait quelque chose par terre. Elle habitait le grand domaine du Gué-Perdu. Madame Alphonse prit un sentier le long de la petite rivière. On était à la fin de mars, et les prés étaient déjà tout fleuris. Madame Alphonse marchait tout droit dans le sentier. Mais moi, j'avais un grand plaisir à marcher dans l'herbe molle. On arriva bientôt près du grand bois où le loup m'avait pris un agneau. J'avais gardé de ce bois une frayeur mystérieuse, et quand on quitta le sentier de la rivière pour prendre un chemin qui traversait les bois, je fus prise d'une véritable épouvante. Cependant, le chemin était large. Il devait même y passer souvent des voitures, car les ornières y étaient profondes. Au-dessus de nos têtes, les aiguilles des sapins crissaient continuellement en se frôlant. Cela faisait un bruit doux et léger qui ne ressemblait en rien au chuchotement sec et coupé de silence que le bois avait fait entendre quand il était chargé de neige. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de regarder derrière moi. On ne marcha pas longtemps dans les bois. Le chemin tournait à gauche et on se trouva tout de suite dans la cour du Gué-Perdu. La petite rivière passait derrière les étables comme à Villevieille, mais ici les prés étaient très resserrés et on eût dit que les bâtiments voulaient se cacher dans la sapinière. La maison d'habitation ne ressemblait pas aux fermes des environs. Le bas en était fait de vieux murs très épais et le premier étage paraissait avoir été posé dessus en attendant. Je ne trouvais pas que cette maison eût l'air d'un château. Elle me faisait plutôt penser à une vieille souche d'arbre de laquelle serait sorti un rejeton malvenu. Madame Deloy parut sur le pas de la porte en nous entendant venir. Elle me regarda encore en clignant des yeux. Elle dit tout de suite à haute voix qu'elle avait perdu un sou dans la paille et que c'était bien étonnant que depuis 8 jours, personne ne l'eût encore trouvé. Tout en parlant, elle remuait avec son pied la mince couche de paille qui était devant la porte. Madame Alphonse ne devait pas entendre. Ses gros yeux fixaient l'intérieur et ce fut presque avec ardeur qu'elle expliqua le motif de notre visite. Madame Deloy a voulu me conduire elle-même à la lingerie. Elle mit les clés sur les armoires et, après m'avoir recommandé de bien faire attention et de ne rien déranger, elle me laissa seule. J'eus fait d'ouvrir et de refermer les grandes armoires reluisantes. J'aurais voulu m'en aller tout de suite. Cette grande lingerie froide m'épouvantait comme une prison. Mes pas résonnaient sur les dalles comme s'il y avait eu en dessous des caveaux profonds. Il me sembla tout à coup que je ne sortirais plus jamais de cette lingerie. Je tendis l'oreille pour écouter le bruit des bêtes, mais je n'entendis que la voix de Madame Deloy. C'était une voix forte et rauque qui traversait les murs et pénétrait partout. J'allais vers la fenêtre pour me sentir moins seul quand une porte que je n'avais pas remarquée s'ouvrit brusquement derrière moi. Je tournai la tête et je vis entrer un homme jeune qui portait une longue blouse blanche et une casquette grise. Il s'arrêta comme s'il était surpris de trouver quelqu'un là et moi, je continuais de le regarder sans pouvoir détacher mes yeux de lui. Il traversa la lingerie sans que nos regards se soient quittés et il s'éloigna après s'être cogné contre la boiserie de la porte. Une minute après, il passa contre la fenêtre et nos regards se rencontrèrent encore. Je restais mal à l'aise et sans savoir pourquoi, j'allais fermer les portes qu'il avait laissées ouvertes. Un moment après, Madame Alphonse vint me chercher et je repris avec elle le chemin de Villevieille. Depuis que M. Alphonse avait remplacé Pauline, j'avais pris l'habitude d'aller m'asseoir sur un houx en forme de siège qui se trouvait au milieu d'un grand buisson peu éloigné de la ferme. Maintenant que le printemps venait, j'y allais à l'heure où les laboureurs fumaient leurs pipes sur le seuil des écuries. J'y restais longtemps à écouter les bruits du soir et un grand désir me venait de ressembler aux arbres. Ce soir-là, il m'arriva de penser à l'homme du Gué-Perdu. Mais chaque fois que je voulais fixer la couleur de ses yeux, ils entraient si profondément dans les miens qu'il me semblait que j'en étais tout éclairé. Le dimanche qui suivit était jour de Pâques. Adèle était partie à la messe dans la voiture de M. Alphonse. Je restais seul avec un laboureur pour garder la ferme. Après le déjeuner, l'homme se coucha sur un tas de paille devant la porte et moi, j'allais me cacher dans mon buisson. Je cherchais à entendre le son des cloches. Mais la ferme était trop éloignée des villages et aucun son ne venait jusqu'à moi. Ma pensée s'en alla vers sœur Marie-Aimée. Je pensais aussi à Sophie qui venait me réveiller chaque année pour que je puisse entendre toutes les cloches de la ville qui sonnaient Pâques en même temps. Il lui était arrivé une année de ne pas se réveiller. Elle en eut tant de regrets que, l'année suivante, elle mit un gros caillou dans sa bouche pour s'empêcher de dormir. Chaque fois qu'elle se laissait aller au sommeil, ses dents portaient sur le caillou et elle se réveillait aussitôt. Je pensais aussi à la grand-messe où Colette chantait à pleine voix. Je revoyais la débandade sur les pelouses et l'air tout affairé de sœur Marie-Aimée s'occupant du grand repas des fêtes. Et ce soir, au lieu du visage fin et aimant de sœur Marie-Aimée, je verrai la figure ingrate de Madame Alphonse et les yeux luisants de son mari qui me faisaient tant peur. Et en pensant qu'il me faudrait rester encore longtemps à la ferme, je me laissai aller à un profond découragement. Quand je fus las de pleurer, je vis avec surprise que le soleil avait beaucoup baissé. À travers les branches du buisson, je voyais s'allonger sur le pré les ombres longues et minces des peupliers. Et plus près de moi, je vis aussi une grande ombre qui bougeait. Elle s'avançait, puis s'arrêtait et s'avançait de nouveau. Je compris tout de suite que quelqu'un allait passer devant ma cachette. Et presque aussitôt, l'homme à la blouse blanche entrait dans le buisson en se baissant pour éviter les branches. Je ressentis un grand froid par tout le corps. Cependant, je me remis très vite. Mais il me resta un tremblement nerveux qu'il me fut impossible de dissimuler. Lui restait debout devant moi sans parler. Je regardais la douceur qui était dans ses yeux, et je sentis revenir la chaleur dans mon corps. Je remarquai qu'il portait, comme Eugène, une chemise de couleur et une cravate nouée sous le col. Et quand il parla, il me sembla que je connaissais sa voix depuis longtemps. Il s'était appuyé contre une grosse branche en face de moi et il me demanda s'il ne me restait plus de parents. Je répondis que non. Il fit glisser entre ses doigts une branche couverte de jeunes pousses et, sans me regarder, il dit encore « Alors, vous êtes seul au monde ?» Je répondis vivement « Oh non, j'ai sœur Marie-Aimée !» Et sans lui laisser le temps de me questionner, je dis combien je l'aimais et avec quelle impatience j'attendais le moment où je pourrais la rejoindre. J'étais si heureuse de parler d'elle que je ne m'arrêtais plus. Je disais sa beauté et son intelligence qui me semblait au-dessus de tout. Je disais aussi son chagrin le jour de mon départ et j'imaginais sa joie le jour où elle me verrait revenir. Pendant que je parlais, il avait les yeux fixés sur mon visage, mais son regard semblait voir beaucoup plus loin. Après un silence, il me demanda encore « Est-ce que vous n'aimez personne ici ?»« Non, dis-je, tous ceux que j'aimais sont partis. » Et j'ajoutai avec un peu de rancune « Jusqu'à Jean le Rouge qu'ils ont chassé. »« Pourtant, dit-il, Madame Alphonse n'est pas méchante. » Je répondis qu'elle n'était ni méchante ni bonne et que je la quitterais sans regret. À ce moment, on entendit crier les roues de la voiture de M. Alphonse qui rentrait et je me levai pour partir. Il s'effaça un peu pour me laisser passer, et je le laissai seul dans le buisson. Le soir, je profitai d'un moment de bonne humeur d'Adèle pour lui demander si elle connaissait les laboureurs du Gué Perdu. Elle me répondit qu'elle ne connaissait que les plus anciens, car depuis que Madame Deslois était veuve, les nouveaux ne restaient pas longtemps chez elle. Une crainte que je n'aurais pu expliquer m'empêcha de parler du jeune homme à la blouse blanche. Et Adèle ajouta en remuant le menton. Heureusement que son fils aîné est revenu de Paris. Les laboureurs seront moins malheureux. Le lendemain, pendant que Madame Alphonse travaillait à sa dentelle, je cousais, en pensant au laboureur à la blouse blanche. Je ne pouvais le séparer d'Eugène dans ma pensée. Il s'exprimait comme lui, et je leur trouvais un air de ressemblance. Vers le soir, je crus le voir passer devant les écuries, et, la minute d'après, il s'arrêtait sur le seuil de la lingerie. Ses yeux passèrent sur moi pour se poser sur Madame Alphonse. Il tenait la tête haute et sa bouche fléchissait un peu du côté gauche. Madame Alphonse dit d'une voix traînante en le voyant « Tiens, voilà Henri !» Elle se laissa embrasser sur les deux joues, puis elle indiqua une chaise à côté d'elle. Mais lui s'assit un peu de travers sur la table, en repoussant la toile. Comme Adèle passait, Madame Alphonse lui dit « Si vous voyez mon mari, dites-lui que mon frère est ici. » Je mis quelques instants à comprendre. Puis je devinai brusquement que c'était lui, le fils aîné de Madame Deloye. Une honte que je n'avais pas encore connue me fit rougir violemment, et un immense regret me vint d'avoir parlé de sœur Marie-Aimée. Il me sembla que je venais de jeter au vent la plus belle chose que je possédais, et malgré tous mes efforts, je ne pus retenir deux larmes qui s'accrochèrent à ma bouche avant de tomber sur la toile fine que j'ourlais. Henri Deloye resta longtemps sur le coin de la table. À chaque instant, je sentais son regard sur moi, et c'était comme un poids lourd qui m'empêchait de relever le front. Deux jours après, je le retrouvai dans le buisson. En le voyant assis sur le houx, il me vint une grande faiblesse dans les jambes et je m'arrêtai. Il se leva aussitôt pour me céder la place, mais je restai à le regarder. Il avait dans les yeux la même douceur que la première fois, et comme s'il attendait que je lui raconte une nouvelle histoire, il demanda « N'avez-vous rien à me dire ce soir ?» Toutes les paroles qui me vinrent à l'esprit me semblèrent inutiles, et je fis non de la tête. Il reprit « J'étais votre ami l'autre jour. » Ce souvenir augmenta mon regret, et je répondis seulement « Vous êtes le frère de Madame Alphonse. » Je le quittai et n'osai plus retourner dans le buisson. Il revint souvent à Villevieille. J'évitais de le regarder, mais sa voix me causait toujours un profond malaise. Depuis que Jean le Rouge était parti, je ne savais que faire de mon temps après la messe. Chaque dimanche, je passais devant la maison de la colline. Parfois, je regardais à travers les fentes des contrevents, et quand il m'arrivait de heurter le bois avec mon front, il rendait un son qui me faisait reculer, tout effrayé. Un dimanche, je remarquai que la porte n'avait pas de serrure. J'appuyai le doigt sur le loquet, et aussitôt la porte s'ouvrit avec un grand bruit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'ouvrît si vite, et je restai là avec l'envie de la refermer et de m'éloigner. Puis, comme le bruit avait cessé et que le soleil était tout de suite entré en faisant un grand carré de clarté, je me décidai à entrer aussi en laissant la porte ouverte. La grande cheminée n'avait plus sa crémaillère ni ses hauts landiers. Il ne restait dans la salle que les épaisses rondelles de bois qui avaient servi de siège aux enfants de Jean le Rouge. L'écorce en était usée et le dessus était poli et comme ciré à force d'avoir servi. La deuxième chambre était complètement vide. Elle n'était pas carrelée, et sur la terre battue, les pieds des lits avaient creusé des trous. La porte du fond n'avait pas non plus de serrure, et je me trouvai bientôt dans le jardin. Les plates-bandes conservaient encore quelques légumes d'hiver, et les arbres à fruits étaient en fleurs. La plupart étaient très vieux. Plusieurs étaient devenus bossus, et leurs branches s'abaissaient comme si elles trouvaient que les fleurs mêmes étaient trop lourdes à porter. Au bas du jardin, la colline s'évasait en pente douce jusqu'à une immense plaine où paissaient des troupeaux, et tout au bout, une rangée de peupliers faisait comme une barrière qui empêchait le ciel d'entrer dans la plaine. Peu à peu, je reconnaissais chaque endroit. Voici la petite rivière au bas de la colline. Je ne vois pas l'eau, mais les saules ont l'air de se ranger pour la laisser passer. Elle disparaît derrière les bâtiments de Villevieille, dont les toits sont de la même couleur que les châtaigniers, et la voilà de l'autre côté. Elle brille par endroits entre les minces peupliers. Puis elle s'enfonce dans ce grand bois de sapin qui paraît tout noir et qui cache le gué perdu. C'est le chemin que Madame Alphonse m'a fait suivre pour aller chez sa mère. Son frère avait dû venir par le même sentier le jour où il m'était apparu dans le buisson de houx. Aujourd'hui, il n'y avait personne dans le sentier. Tout était d'un vert tendre et j'avais beau regarder entre les bouquets d'arbres, aucune blouse n'apparaissait. Je cherchais aussi des yeux le buisson, mais il était caché par les toits de la ferme. Henri Deloye y était venu plusieurs fois depuis le jour de Pâques. Je n'aurais pas su dire comment je le savais, mais ces jours-là, je ne pouvais m'empêcher d'en faire le tour. Hier, Henri Deloye était entré dans la lingerie pendant que j'étais seul. Il avait fait un geste comme s'il allait me parler. Aussitôt, mes yeux s'étaient attachés à lui comme la première fois et il était reparti sans rien dire. Et maintenant que j'étais dans ce jardin sans clôture, tout entouré de genêts fleuris, le désir me venait d'y vivre toujours. Un gros pommier se penchait à côté de moi et trempait le bout de ses branches dans la source. La source sortait du tronc creux d'un arbre et le trop-plein s'en allait en petits ruisseaux à travers les plates-bandes. Ce jardin plein de fleurs et d'eau claire me paraissait le plus beau jardin de la terre, et quand je tournais la tête vers la maison grande ouverte au soleil, j'attendais toujours qu'il en sortît des êtres extraordinaires. Cette maison basse et sans couleur me semblait pleine de mystère. Il sortait d'elle des petits glissements brusques et irréguliers, et tout à l'heure, j'avais bien cru entendre le bruit que faisait M. Henri Deslois quand il posait le pied sur le seuil de la ferme de Villevieille. J'avais écouté comme si j'espérais le voir s'approcher, mais le bruit de pas ne s'était pas renouvelé, et bientôt je m'aperçus que les genêts et les arbres faisaient entendre toutes sortes de sons mystérieux. J'imaginais que j'étais un jeune arbre, que le vent pouvait déplacer à son gré. Le même souffle frais qui balançait les genêts passait sur ma tête et emmêlait mes cheveux. Et pour imiter le pommier, je me baissais et trempais mes doigts dans l'eau pure de la source. Un nouveau bruit me fit regarder vers la maison, et je n'eus aucune surprise en voyant Henri Deslois dans l'encadrement de la porte. Il était tête nue et les bras ballants. Il fit deux pas dans le jardin, et son regard s'en alla au loin dans la plaine. Ses cheveux étaient séparés sur le côté, et son front s'allongeait très loin vers les tempes. Il resta un long moment sans bouger, puis il se tourna tout à fait vers moi. Deux arbres seulement nous séparaient. Il fit encore un pas, il prit d'une main le tout jeune arbre qui était devant lui, et les branches fleuries firent comme un bouquet au-dessus de sa tête. La clarté était si grande qu'il me semblait que l'écorce des arbres brillait et que chaque fleur rayonnait, et, dans les yeux d'Henri Deslois, il y avait une douceur si profonde que je m'avançais vers lui sans aucune honte. Il ne fit pas un mouvement, mais quand je m'arrêtai devant lui, son visage devint plus blanc que sa blouse et sa bouche trembla. Il prit mes deux mains, qu'il appuya fortement contre ses tempes, et il dit d'une voix très basse « Je suis comme un avare qui a retrouvé son trésor. » En ce moment, la cloche de l'église de Sainte-Montagne se mit à sonner. Les sons montaient la colline en courant, et après s'être reposé un instant au-dessus de nous, s'en allait se perdre plus haut. Les heures passèrent avec le jour, les troupeaux disparurent un à un de la plaine. Une vapeur blanche se leva de la petite rivière. Puis le soleil passa derrière la barrière de peupliers, et les fleurs des genêts commencèrent à devenir plus sombres. Henri Deslois me ramena sur le chemin de la ferme. Il marchait devant moi, dans le sentier étroit, et quand il me quitta, un peu avant l'allée des châtaigniers, je sentis que je l'aimais plus que sœur Marie aimée. La maison de la colline devint notre maison. Chaque dimanche, j'y retrouvais Henri Deslois, et comme au temps de Jean le Rouge, je rapportais le pain béni que nous partagions en riant. Il y avait en nous comme une folie de liberté qui nous faisait courir autour du jardin et mouiller nos souliers dans le ruisseau de la source. Henri Deslois disait « Le dimanche, j'ai aussi 17 ans ». Parfois, nous faisions de longues promenades dans les bois qui entouraient la colline. Henri Deslois ne se lassait pas de m'entendre raconter mon enfance avec sœur Marie-Aimée. Nous parlions aussi d'Eugène qu'il connaissait. Il disait qu'il était de ceux qu'on aime à avoir pour amis. Je lui dis aussi combien j'avais été mauvaise bergère. Et tout en pensant qu'il allait se moquer de moi, je racontais l'histoire du mouton enflé. Il ne se moqua pas. Il passa simplement un doigt sur mon front en disant « Il faut beaucoup d'amour pour guérir ça. » Il nous arriva un jour de nous arrêter près d'un immense champ de blé dont on ne voyait pas la fin. Des milliers de papillons blancs voltigeaient au-dessus des épis. Henri Deslois ne parlait pas, et moi je regardais les épis qui se ployaient et se redressaient comme s'ils voulaient prendre leur élan pour fuir. On eût dit que les papillons leur apportaient des ailes pour les aider. Mais les épis avaient beau s'agiter, ils ne parvenaient pas à quitter la terre. Je le dis à Henri Deslois, qui regarda longtemps le blé, puis comme s'il parlait pour lui-même, il dit en traînant sur les mots « Il en est de même pour l'homme. Parfois, une douce créature vient à lui. Elle est semblable au papillon blanc de la plaine. Il ne sait si elle monte de la terre ou si elle descend en haut. Il sent qu'avec elle, il pourrait vivre du vent qui passe et du miel des fleurs. Mais pareil à la racine qui retient l'épi à la terre, un lien mystérieux l'attache à son devoir qui est fort comme la terre. » Il me sembla que sa voix avait un accent de souffrance et que sa bouche fléchissait davantage. Mais presque aussitôt, ses yeux s'arrêtèrent sur moi et il dit avec une voix plus ferme « Ayons confiance en nous. » L'été passa puis l'automne. Et malgré le mauvais temps de décembre, nous ne pouvions nous décider à quitter la maison de la colline. Henri Deloye apportait des livres que nous lisions, assis sur les rondelles de bois, dans la pièce qui donnait sur le jardin. Je rentrais à la ferme quand la nuit venait, et Adèle, qui croyait que je passais mon temps à la danse du village, s'étonnait toujours de mon air triste. Presque chaque jour, Henri Deloye venait à Villevieille. Je l'entendais venir de loin. Il montait, sans bride ni selle, une grande jument blanche qui trottait lourdement et qui le portait à travers les labours et les sentiers. C'était une bête patiente et douce. Son maître la laissait en liberté dans la cour pendant qu'il entrait dire bonjour à Madame Alphonse. Aussitôt que Monsieur Alphonse s'entendait, il entrait dans la lingerie. Tous deux parlaient de l'amélioration des terres ou des gens qu'ils connaissaient, mais il y avait toujours dans la conversation un mot ou une tournure de phrase qui venait à moi comme la pensée visible d'Henri Deloye. Je rencontrais souvent le regard de M. Alphonse, et je ne pouvais pas toujours m'empêcher de rougir. Un après-midi, qu'Henri Deloye entrait tout souriant, M. Alphonse lui cria « Vous savez que j'ai vendu la maison de la colline ?» Les deux hommes se regardèrent. Ils devinrent si pâles tous les deux que j'eus peur de les voir mourir sur place. Puis, M. Alphonse se leva de sa chaise pour s'adosser à la cheminée, pendant qu'Henri Deloye poussait la porte sans pouvoir arriver à la fermer. Madame Alphonse posa sa dentelle sur ses genoux, et elle dit, comme si elle répétait une leçon, « Cette maison ne servait à rien, et je suis bien contente qu'elle soit vendue. » Henri Deloye vint s'asseoir sur la table, si près de moi qu'il aurait pu me toucher. Il dit d'une voix assez ferme, « Je regrette que vous l'ayez vendue sans m'en avoir parlé, car j'avais l'intention de l'acheter. » Monsieur Alphonse se tortilla comme un ver. Il faisait des efforts pour rire aux éclats, et à travers son rire, il disait « Lâcheté, lâcheté, mais qu'en auriez-vous fait ?» Henri Deloye posa sa main sur le dossier de ma chaise, et il répondit « Je l'aurais habité, comme Jean le Rouge. » Monsieur Alphonse se mit à aller et venir devant la cheminée. Son visage était devenu d'un jaune terreux. Il tenait ses mains dans les poches de son pantalon, et ses pieds se soulevaient si vite qu'on eût dit qu'il les remontait avec une ficelle qu'il tenait dans chaque main. Puis il vint s'appuyer à la table, en face de nous, et, en nous regardant l'un après l'autre, de ses yeux qui luisaient, il dit avec un mouvement de tout son buste en avant, « Eh bien, je l'ai vendu, et comme cela, tout est fini. » Pendant le silence qui suivit, on entendit la jument blanche gratter le seuil avec son sabot, comme si elle appelait son maître. Henri Deloye se dirigea vers la porte. Puis il revint près de moi pour ramasser mon ouvrage, qui avait glissé de mes mains, sans que je m'en fusse aperçu. Il embrassa sa sœur et, avant de partir, il dit en me regardant « À demain ». Le lendemain, dans la matinée, ce fut Madame Deloye qui entra dans la lingerie. Elle vint droit à moi avec des mots insultants. Mais Monsieur Alphonse la fit taire d'un geste sec. Puis, s'adressant à moi d'une voix adoucie, il dit « Madame Alphonse m'envoie vous dire qu'elle tient beaucoup à vous garder près d'elle. Elle désire seulement que dorénavant vous veniez à la messe avec nous ». Il essaya de sourire en ajoutant « Vous ferez le voyage en voiture. » C'était la première fois qu'il me parlait directement. Sa voix me parut un peu voilée, comme s'il éprouvait une gêne à me dire ces choses. Je ne sais pas pourquoi je pensais que Madame Alphonse n'avait rien dit de tout cela et qu'il mentait. Puis, en ce moment, il ressemblait tellement à la supérieure que je ne pus m'empêcher de le braver. Je répondis que je n'aimais pas aller en voiture et que je continuerais d'aller à Sainte-Montagne. Il rentra sa lèvre inférieure et se mit à la mordiller. Aussitôt Madame Deloye s'avança menaçante en me traitant d'insolente. Elle répétait ce mot comme si elle n'en trouvait pas d'autre. Elle le criait de plus en plus fort et bientôt elle perdit toute mesure. Le blanc de ses yeux devint tout rouge et elle leva la main pour me frapper. Je reculai vivement en passant derrière ma chaise. Madame Deloye buta dans la chaise qu'elle renversa et elle dut se retenir à la table pour ne pas tomber. Ses cris rauques m'épouvantaient. Je voulus sortir de la lingerie, mais Monsieur Alphonse s'était mis devant la porte, comme pour la garder, et je revins en face de Madame Deloye, de l'autre côté de la table. Elle parlait maintenant d'une voix étranglée. Elle disait des mots dont le sens m'échappait. Je trouvais seulement que ses paroles avaient une odeur insupportable. Elle cessa, après avoir crié de toutes ses forces, « Je suis sa mère, entendez-vous » Monsieur Alphonse revint vers moi. Il dit en me prenant le bras, « Voyons, écoutez-moi. » Je me dégageai en le repoussant et je sortis de la maison en courant. Les derniers mots de Madame Deloye entraient dans ma tête comme un marteau pointu. Je suis sa mère, entendez-vous ? Oh, ma mère, Marie-Aimée, comme vous étiez belle à côté de cette autre mère, et comme je vous aimais en ce moment. Comme vos yeux de plusieurs couleurs rayonnaient et illuminaient votre vêtement noir, et comme votre visage était pur dans votre cornette blanche. Vous étiez aussi visible pour moi que si vous eussiez été réellement devant moi. Je fus toute surprise de me retrouver devant la maison de la colline. Et en même temps, je m'aperçus que la neige tombait en tourmente. J'entrai dans la maison pour m'abriter, et j'allai tout de suite dans la pièce qui donnait sur le jardin. Je cherchais à fixer ma pensée, mais mes idées tournoyaient dans ma tête comme les flocons de neige qui paraissaient monter de la terre et tomber du ciel en même temps. Et chaque fois que je faisais un effort pour penser, ma mémoire ne m'apportait que les bribes d'une chanson que les petites filles chantaient joyeusement dans leur ronde et qui disait « On a tant fait sauter la vieille qu'elle est morte en sautillant, tirelis, sautons, sautons, la vieille. » Je me trouvais bien dans cette maison silencieuse. La neige s'arrêta de tomber et les arbres me semblèrent aussi beaux que le jour où je les avais vus tout fleuris. Et brusquement, le souvenir de ce qui venait de se passer se précisa dans mon esprit. Je revis la main aux doigts carrés de Madame Deloy. Un grand frisson me secoua. Quelle vilaine main, et comme elle était grande! Puis l'expression du regard de Monsieur Alphonse quand il me prit le bras. Maintenant que j'y pensais, je me rappelais avoir déjà vu ce regard à une petite fille. C'était un jour que je venais de voler un fruit tombé. Elle s'était précipitée sur moi en disant « Donne-moi la moitié, et je ne le dirai pas ». Une grande répugnance m'était venue de partager avec elle, et au risque de me faire voir par sœur Marie-Aimée, j'étais allé reporter le fruit sous l'arbre. Et voilà qu'à penser à ces choses, un désir violent me venait de revoir sœur Marie-Aimée. J'aurais voulu partir tout de suite, mais en même temps, je pensais qu'Henri Deloy avait dit hier en partant « à demain ». Peut-être était-il déjà à la ferme, m'attendant et s'inquiétant de ce que je pouvais être devenu. Je sortis de la maison pour courir à Villevieille. Je n'avais fait que quelques pas lorsque je le vis venir sur le chemin. La jument blanche gravissait difficilement le sentier plein de neige. Henri Deloy était tête nue comme la première fois qu'il était venu ici. Sa blouse se gonflait sous le vent et il se retenait à la crinière de sa bête. La jument s'arrêta devant moi. Son maître se pencha et saisit mes deux mains que je levais vers lui. Il y avait sur son visage quelque chose de tourmenté que je n'y avais jamais vu. Je remarquai aussi que ses sourcils se rejoignaient comme ceux de Madame Deloy. Il dit, un peu essoufflé, « Je savais que je vous retrouverais ici. » Il ouvrit encore la bouche et je fus tout de suite sûr que ses paroles allaient me donner de la joie. Il serra davantage mes mains et dit de la même voix essoufflée, « N'ayez pas de haine contre moi. » Il détourna les yeux des miens. « Je ne peux plus être votre ami. » Aussitôt, je crus que quelqu'un me donnait un coup violent sur la tête. Il se fit dans mes oreilles un grand bruit de scie. Je vis Henri Deloy frissonner longuement et j'entendis encore qu'il disait « Oh, comme j'ai froid !» Puis je ne sentis plus sur mes mains la chaleur des siennes. Et quand je compris que je restais seul sur le chemin, je ne vis plus qu'une masse d'un blanc gris qui paraissait glisser sans bruit sur la neige du sentier. Je descendis lentement l'autre versant de la colline. Je marchais longtemps dans la neige qui crissait sous mes pieds. J'avais déjà fait la moitié du chemin lorsqu'un paysan m'offrit de monter dans sa voiture. Il allait aussi à la ville, et je me trouvais bientôt devant l'orphelinat. Je sonnai, et tout de suite, la portière m'examina par le Judas. Je la reconnus, c'était toujours Bel Œil. Nous l'avions surnommée ainsi parce qu'elle avait un gros œil blanc. Elle ouvrit après m'avoir reconnu aussi. Elle me fit entrer, mais avant de refermer la porte derrière moi, elle me dit « Sœur Marie-Aimée n'est plus ici ». Je ne répondis pas, alors elle répéta « Sœur Marie-Aimée n'est plus ici ». J'entendais bien, mais je n'y apportais aucune attention. C'était comme dans les rêves où les choses les plus extraordinaires vous arrivent sans que cela ait de l'importance. Je regardais son œil blanc et je dis simplement « Je reviens ». Elle ferma la porte derrière moi et elle me laissa debout sous l'auvent pendant qu'elle allait prévenir la supérieure. Elle revint en disant que la supérieure voulait parler à sœur Désirée des Anges avant de me recevoir. À un coup de sonnette, Bel Œil se leva en me faisant signe de la suivre. La neige s'était remise à tomber. L'obscurité était presque complète chez la supérieure. Je ne vis tout d'abord que le feu qui flambait en sifflant. Une voix me fit regarder plus près. La supérieure disait « Alors, vous revenez ?» J'essayais de fixer mes idées. Je ne savais pas bien si je revenais. » Elle reprit, « Sœur Marie-Aimée n'est plus ici. » Je crus que c'était le mauvais rêve qui continuait, et je toussais pour me réveiller. Puis je regardai le feu, et je tâchais de savoir pourquoi elle sifflait. La supérieure dit encore, « Est-ce que vous êtes malade ?» Je répondis, « Non. » La chaleur me ranimait, et je me sentais mieux. Je comprenais enfin que j'étais revenu, et que je me trouvais chez la supérieure. Je rencontrai ses yeux fixes et me rappelai tout. Elle disait en se moquant, « Vous n'avez pas beaucoup changé. Quel âge avez-vous donc ?» Je répondis que j'avais 18 ans. « Eh bien, reprit-elle, cela ne vous a pas beaucoup fait grandir d'aller dans le monde. » Elle mit un coude sur la table et me demanda pourquoi je revenais. Je voulais répondre que c'était pour voir Sœur Marie-Aimée, mais j'eus peur de l'entendre encore me dire que Sœur Marie-Aimée n'était plus ici, et je restai silencieuse. Elle tira d'un tiroir une lettre qu'elle glissa sous ma main ouverte, et dit de l'air ennuyé d'une personne que l'on dérange pour peu de choses, « Cette lettre m'avait déjà appris que vous étiez devenue une fille orgueilleuse et hardie. » Elle repoussa la lettre d'un geste là, et après avoir respiré longuement, elle dit encore, « On va vous envoyer aux cuisines, en attendant qu'on vous trouve une autre place. » Le feu sifflait sans relâche. Je continuais de le regarder sans parvenir à reconnaître laquelle des trois bûches faisait entendre ce sifflement. La supérieure haussa sa voix monotone pour attirer mon attention. Elle me prévenait que Sœur Désirée des Anges me surveillerait étroitement et qu'il ne me serait pas permis de parler à mes anciennes compagnes. Je la vis faire un geste vers la porte et je sortis dans la neige. Tout là-bas, de l'autre côté des allées, je voyais les cuisines. Sœur Désirée des Anges, longue et droite, m'attendait à la porte. Je ne voyais d'elle que sa cornette et sa robe noire et je l'imaginais vieille et sèche. L'idée me vint de me sauver. Je n'avais qu'à courir jusqu'à la porte. Je dirais à Bel Oeil que j'étais venu en visite. Elle me laisserait sortir et tout serait dit. Au lieu d'aller du côté de la porte, je me dirigeais vers les bâtiments où s'était passée mon enfance. Je ne savais pas pourquoi j'y allais, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. Je ressentais aussi une grande fatigue et j'aurais voulu m'étendre pour dormir longtemps. Le vieux banc était toujours à sa place. J'écartai de la main la neige qui le recouvrait et je m'assis en m'appuyant au tilleul comme autrefois monsieur le curé. J'attendais quelque chose, et je ne savais pas quoi. Je regardais la fenêtre de la chambre de Sœur Marie-Aimée. Elle n'avait plus ses beaux rideaux de mousseline brodée, mais elle avait beau être pareille aux autres, je la trouvais quand même différente, et si les épais rideaux de calicot ne déparaient pas les autres fenêtres, ils lui faisaient, à elle, comme un visage aux yeux fermés. La nuit commença à tomber sur les allées, et les lumières s'allumaient à l'intérieur des salles. Je voulais me lever du banc. Je pensais, Bel Oeil va m'ouvrir la porte. Mais mon corps était comme écrasé, et il me semblait que des mains larges et dures se posaient lourdement sur ma tête, et toujours ces mots revenaient comme si je les avais prononcés tout haut, « Bel Oeil va m'ouvrir la porte ». Mais voilà qu'une voix pleine de pitié disait près de moi, « Je vous en prie, Marie-Claire, ne restez pas ainsi dans la neige ». Je relevai la tête. J'avais devant moi une toute jeune religieuse dont le visage était si beau que je ne me souvenais pas d'en avoir vu de pareil. Elle se pencha pour m'aider à me lever, et comme j'avais de la peine à me tenir debout, elle passa mon bras sous le sien pendant qu'elle disait « Appuyez-vous sur moi ». Je vis aussitôt qu'elle me conduisait vers les cuisines, dont la large porte vitrée était tout éclairée. Je ne pensais plus à rien. La neige qui tombait fine et dure me piquait le visage, et je sentais de violentes brûlures aux paupières. En entrant dans les cuisines, je reconnus les deux jeunes filles qui se tenaient devant le grand fourneau carré. C'était Véronique Lapinbèche et la grosse Mélanie, et il me sembla entendre Sœur Marie-Aimée quand elle les nommait ainsi. Seule, la grosse Mélanie me fit un petit signe au passage, et j'entrai avec la jeune sœur dans une chambre éclairée par une veilleuse. Cette chambre était séparée en deux par un grand rideau blanc. La jeune sœur me fit asseoir sur une chaise qu'elle tira de derrière le rideau, et elle sortit sans rien dire. Un peu après, la grosse Mélanie et Véronique Lapinbèche entrèrent pour mettre du linge propre au petit lit de fer qui était à côté de moi. Quand elles eurent fini, Véronique, qui avait évité de me regarder, se tourna vers moi pour me dire qu'on n'aurait jamais cru que je serais revenu. Elle avait un air méprisant, comme si elle me reprochait une chose honteuse. La grosse Mélanie joignit ses mains sous son menton. Elle penchait toujours la tête de côté, comme quand elle était petite fille. Elle me dit avec un sourire affectueux, « Je suis bien contente qu'on t'ait mise aux cuisines. » Puis elle tapota un peu le lit. « Tu prends ma place, c'est moi qui couchais ici. » Elle montra du doigt le rideau en baissant la voix. « Sœur Désirée des Anges couche là. » Quand elles furent sorties, en fermant la porte derrière elles, je me rapprochai du lit de fer. Ce grand rideau blanc m'impressionnait. Il me semblait voir remuer des ombres dans le creux des plis que la veilleuse n'éclairait pas. Mon attention fut détournée par la cloche du dîner. J'en reconnaissais le son, et malgré moi j'en comptais les coups. Puis le silence se fit, et la jeune sœur entra de nouveau dans la chambre. Elle m'apportait un bol de bouillon tout fumant. Elle fit glisser le grand rideau sur sa tringle, et elle eut presque le même geste que Mélanie quand elle me dit « Voici votre chambre, et voici la mienne ». Je fus tout de suite rassuré en voyant que son petit lit de fer était pareil au mien. Je commençais à penser que j'avais devant moi Sœur Désirée des Anges, mais je n'osais pas y croire, et je le lui demandai. Elle fit oui de la tête, et tout en approchant sa chaise de la mienne, elle dit en mettant son visage dans la lumière « On dirait que vous ne me reconnaissez pas ». Je la regardai sans répondre. Non, je ne la reconnaissais pas. J'étais même sûr de ne l'avoir jamais vue, car je n'imaginais pas qu'on pût oublier ses traits lorsqu'on les avait vus une seule fois. Elle fit une petite moue comique en disant « Je vois bien que vous ne vous souvenez plus de cette pauvre Désirée Jolie. » « Désirée Jolie ? Ah, si je m'en souvenais, c'était une jeune fille qui faisait son noviciat. Elle avait un visage plus rose que les roses, elle avait aussi une taille fine et elle était rieuse et aimante. Elle sautait si fort quand elle jouait à la ronde avec nous que Sœur Marie-Aimée lui disait souvent « Voyons, Mademoiselle Jolie, pas si haut, on voit vos genoux !» Maintenant, j'avais beau regarder Sœur Désirée des Anges, il m'était impossible de faire le plus petit rapprochement. Elle dit « Oui, le vêtement de religieuse nous change beaucoup. » Elle releva ses manches d'un geste vif, et avec la même petite moue de tout à l'heure, elle dit encore « Oubliez que je suis Sœur Désirée des Anges, et rappelez-vous que, Désirée Jolie, vous aimait bien autrefois. » Elle reprit avec vivacité « Oh, moi je vous ai reconnue tout de suite, vous avez toujours votre figure de petite fille. » Quand je lui dis que j'avais imaginé une sœur Désirée des Anges bien vieille et bien méchante, elle répondit « Nous nous étions trompés toutes les deux. On vous avait montré à moi comme une fille vaniteuse et arrogante. Mais quand je vous ai vu pleurer au milieu de toute cette neige, j'ai pensé que vous aviez surtout de la peine et je suis allée vers vous. » Après m'avoir aidé à me mettre au lit, elle sépara la chambre avec le rideau et je m'endormis aussitôt. Mais c'était un mauvais sommeil. Je me réveillais à tout instant. J'avais toujours une grosse pierre sur la poitrine, et quand je réussissais à la rejeter, elle se partageait en plusieurs morceaux qui retombaient sur moi et m'écrasaient les membres. Puis je rêvais que je me trouvais sur une route pleine de pierres coupantes. J'y marchais avec une extrême difficulté. De chaque côté de la route, il y avait des champs, des vignes, des maisons. Toutes les maisons étaient couvertes de neige, tandis qu'un beau soleil éclairait les arbres chargés de fruits. Je quittai la route pour entrer dans les champs et je m'arrêtai à tous les arbres pour goûter à chaque fruit, mais tous étaient amers et je les rejetais avec dégoût. Je cherchai à entrer dans les maisons couvertes de neige, mais aucune n'avait de porte. Je revins sur la route et voilà que les pierres s'amoncelèrent autour de moi en si grande quantité qu'il me fut impossible d'avancer. Alors j'appelai à mon secours. J'appelai de toutes mes forces sans que personne entendît. Et quand je sentis que j'allais être enseveli sous l'énorme monceau, je fis un tel effort pour me dégager que je me réveillai. Pendant un instant, je crus que je rêvais encore. Le plafond de la chambre me parut à une hauteur extraordinaire. La tringle qui soutenait le rideau blanc brillait par endroits, et la branche de buis clouée au mur allongeait son ombre jusque sur la Vierge qui tendait les bras dans son coin. Puis un coq chanta. Il recommença plusieurs fois, comme s'il eût voulu effacer son premier chant qui s'était arrêté court, comme un cri d'angoisse. La veilleuse se mit à grésiller, elle pétilla longtemps avant de s'éteindre, et quand tout fut devenu noir dans la chambre, j'entendis la respiration mince et régulière de Sœur Désirée des Anges. Bien avant le jour, je me levai pour commencer mon métier de cuisinière. Mélanie me montra comment on soulevait les énormes marmites. Il fallait autant d'adresse que de force. Il me fallut plus d'une semaine avant de pouvoir seulement les bouger de place. Ce fut encore Mélanie qui m'apprit à sonner la lourde cloche du réveil. Elle me montra comment on cambrait les reins pour tirer la corde. Je saisis vite le balancement du son régulier et chaque matin, malgré le froid ou la pluie, j'avais un grand plaisir à sonner le réveil. La cloche avait un son clair que le vent augmentait ou diminuait et je ne me lassais pas de l'entendre. Il y avait des jours où je sonnais si longtemps que Sœur Désirée des Anges ouvrait la fenêtre et me disait avec une moue suppliante « Assez, assez !» Depuis que j'étais aux cuisines, Véronique Lapinbèche affectait de regarder de côté en me parlant, et si je me renseignais près d'elle pour connaître la place d'un objet, elle me l'indiquait seulement d'un geste. Sœur Désirée des Anges la suivait des yeux en faisant une petite grimace du coin de la bouche. Elle n'avait plus sa pétulance de jeune novice, mais elle restait enjouée et moqueuse. Chaque soir, nous nous retrouvions dans notre chambre. Elle me forçait à rire par quelques remarques plaisantes sur ce qui s'était passé dans la journée. Il arrivait, parfois, que mon rire finissait en sanglots douloureux. Alors, elle appuyait ses mains l'une contre l'autre, comme les saintes, et elle disait en regardant en haut, « Oh, comme je voudrais que votre chagrin s'en aille !» Puis elle s'agenouillait par terre pour prier, et souvent je m'endormais avant de l'avoir vue se relever. Le travail des cuisines m'était très pénible. J'aidais Mélanie au récurage des marmites et au lavage des dalles. C'était elle qui en faisait la plus grande partie. Elle était forte comme un homme et toujours prête à rendre service. Aussitôt qu'elle me voyait fatiguée, elle m'asseyait de force sur une chaise. Et elle disait avec une autorité souriante, « Prends ta récréation. » Dès les premiers jours de mon arrivée, elle m'avait rappelé la difficulté qu'elle avait eue à apprendre son catéchisme. Elle n'avait pas oublié que pendant toute une saison, j'avais passé toutes mes récréations à essayer de le lui faire retenir par cœur. Et maintenant, c'était une joie pour elle de me faire reposer un instant. Véronique était chargée de préparer les légumes et de recevoir la viande de boucherie. Elle se tenait raide et pincée près de la bascule où les garçons déposaient la viande. Elle se disputait souvent avec eux, trouvant toujours que les morceaux étaient coupés trop gros ou trop petits. Les garçons finirent par lui dire des injures, et Sœur Désirée des Anges me chargea de recevoir les bouchées à sa place. Elle vint tout de même le lendemain, près de la bascule, mais j'étais là, avec Sœur Désirée des Anges qui m'expliquait la manière de peser. Un matin, un des deux bouchers poussa une exclamation en prononçant mon nom. Sœur Désirée des Anges s'approcha, et moi je regardais le garçon, toute surprise. C'était un nouveau. Mais je ne fus pas longtemps à le reconnaître. C'était l'aîné des enfants de Jean le Rouge. Il s'avançait, tout joyeux de me rencontrer. Il parla tout de suite de ses parents qui avaient enfin trouvé une bonne place au château du Gué-Perdu. Lui n'avait aucun goût pour le travail des champs, et il avait voulu entrer chez un boucher de la ville. Il se reprit très vite pour me dire que le Gué-Perdu se trouvait tout près de Villevieille, et il me demanda si je le connaissais. Je fis un signe de tête pour dire que je le connaissais. Alors il continua, disant que ses parents y étaient installés depuis plusieurs mois et qu'il y avait eu une belle fête la semaine dernière à l'occasion du mariage de Monsieur Henri Deslois. J'entendis encore quelques mots que je ne compris pas. Puis, le jour éclatant des cuisines se changea en nuit noire et je sentis que les dalles s'enfonçaient et m'entraînaient dans un trou sans fond. Je sentis encore que Sœur Désirée des Anges venait à mon secours, mais déjà une bête s'était accrochée à ma poitrine. Il sortait d'elle un bruit qui m'était très douloureux à entendre. C'était comme un horrible sanglot qui s'arrêtait toujours au même endroit. Puis le jour revint, et j'aperçus au-dessus de moi le visage de Sœur Désirée des Anges et celui de Mélanie. Elles souriaient toutes deux du même sourire inquiet, et le visage large de Mélanie avait une grande ressemblance avec le visage fin et décoloré de Sœur Désirée des Anges. Je me dressai sur le lit, tout étonné d'être couché en plein jour, mais je ne me levai pas. Le souvenir du petit Jean le Rouge me revint, et pendant des heures et des heures, j'essayais d'étouffer mon mal. Quand Sœur Désirée des Anges entra dans la chambre à l'heure du coucher, elle s'assit sur le pied de mon lit. Elle mit encore ses mains comme les saintes, et elle me dit « Parlez-moi de votre peine ». Je parlais, et il me sembla que chaque mot que je prononçais emportait un peu de ma souffrance. Lorsque j'eus tout dit, Sœur Désirée des Anges alla prendre l'imitation de Jésus-Christ, et elle se mit à lire tout haut. Elle lisait avec un accent doux et résigné, et il y avait des mots qu'elle traînait comme une plainte qui finit. Les jours suivants, je revis le petit Jean le Rouge. Il parla encore du Gué-Perdu, et pendant qu'il disait le contentement de ses parents et la bonté du maître pour eux, je revoyais la maison de la colline avec son jardin fleuri et sa source dont le ruisseau descendait jusqu'à la petite rivière en se cachant sous les genêts. Je parlais souvent d'elle à Sœur Désirée des Anges qui m'écoutait avec recueillement. Elle en connaissait les alentours et les moindres recoins, et un soir qu'elle restait songeuse et que je lui en demandais la raison, elle répondit en regardant au loin « L'été va finir et je pense que les arbres du jardin sont chargés de fruits. » Pendant le mois de septembre, beaucoup de religieuses vinrent rendre visite à la supérieure. Belle-Œil les annonçait par un coup de cloche. À chaque coup, Véronique sortait pour s'assurer de celle qui entrait. Elle avait un mot désagréable pour chacune des religieuses qu'elle reconnaissait. Vers le soir, il y eut encore un coup de cloche. Véronique, qui se trouvait sur la porte, cria. Par exemple, en voilà une que personne n'attendait. Et en rentrant seulement sa tête dans les cuisines, elle nous dit « C'est Sœur Marie-Aimée ». La grosse cuillère à peau m'échappa des doigts et glissa jusqu'au fond de la marmite. Je me précipitai vers la porte en bousculant Véronique, qui voulait m'empêcher de passer. Mélanie courut derrière moi pour me retenir. « Reviens, disait-elle, la supérieure te voit. » Mais j'avais déjà rejoint sœur Marie-Aimée. Je m'étais jeté contre elle avec une si grande force que nous avions manqué de tomber ensemble. Elle m'entoura à plein bras. Elle était toute frémissante et comme transportée. Elle me prit la tête et comme si j'eusse été un tout petit enfant, elle m'embrassa partout le visage. Sa cornette faisait entendre un bruit de papier froissé et ses larges manches reculaient vers ses coudes. Mélanie avait raison. La supérieure me voyait. Elle sortait de la chapelle et s'avançait dans l'allée où nous étions. Sœur Marie-Aimée la vit. Elle cessa de m'embrasser pour poser sa main sur mon épaule, tandis que je passais vivement mon bras autour de sa taille, dans la crainte qu'elle ne m'éloignât d'elle. Toutes deux maintenant, nous regardions venir la supérieure. Elle passa devant nous sans lever les yeux, et elle ne parut pas avoir vu le salut plein de gravité que lui fit sœur Marie-Aimée. Aussitôt qu'elle nous eut dépassés, j'entraînai sœur Marie-Aimée sur le vieux banc. Elle hésita et dit avant de s'asseoir « On dirait que les choses nous attendent ». Elle s'assit sans s'adosser au tilleul et je m'agenouillai dans l'herbe à ses pieds. Ses yeux n'avaient plus de rayons, on eût dit que les couleurs s'étaient mélangées et tout son visage, si fin, s'était comme rapetissé et retiré au fond de sa cornette. Sa guimpe ne s'arrondissait plus comme autrefois sur sa poitrine et ses mains laissaient voir leurs veines bleues. Son regard se posa à peine sur les fenêtres de sa chambre. Il passa sur les allées de tilleul, il fit le tour de la grande cour carrée, et pendant qu'il s'arrêtait sur la maison de la supérieure, elle laissa échapper ses paroles comme un murmure. « Il faut bien pardonner aux autres si nous voulons qu'on nous pardonne. » Elle ramena son regard sur moi et elle dit « Tes yeux sont tristes. » Elle passa ses paumes sur mes yeux comme si elle voulait y effacer une chose qui lui déplaisait, et, en les retenant fermés, elle dit de la même voix murmurante « Tant de souffrances passent sur nous. » Elle retira ses mains pour les mêler aux miennes et sans me quitter du regard, avec un accent plein de prière, elle me parla. « Ma douce fille, écoute-moi, ne deviens jamais une pauvre religieuse. » Elle eut comme un long soupir de regret et elle reprit. « Notre habit noir et blanc annonce aux autres que nous sommes des créatures de force et de clarté, et toutes les larmes s'étalent devant nous et toutes les souffrances veulent être consolées par nous. Mais pour nous, personne ne s'inquiète de nos souffrances et c'est comme si nous n'avions pas de visage. » Puis elle parla d'avenir. Elle disait « Je m'en vais où vont les missionnaires. Je vivrai là-bas, dans une maison pleine d'épouvantes. J'aurai sans cesse devant les yeux toutes les laideurs et toutes les pourritures. » J'écoutais sa voix profonde. Il y avait au fond comme une ardeur. On eût dit qu'elle pouvait prendre pour elle seule toutes les souffrances de la terre. Ses doigts cessèrent de s'entrecroiser aux miens. Elle les passa sur mes joues et sa voix se fit très douce pour me dire « La pureté de ton visage restera gravée dans ma pensée. » Et pendant que son regard passait au-dessus de moi, elle ajouta « Dieu nous a donné le souvenir, et il n'est au pouvoir de personne de nous le retirer. » Elle se leva du banc, je l'accompagnai jusqu'à la sortie, et quand Bel Oeil eut refermé sur elle la lourde porte, j'en écoutai un long moment le bruit sourd et prolongé. Ce soir-là, sœur Désirée des Anges vint plus tard dans la chambre. Elle avait assisté à des prières particulières pour le départ de sœur Marie-Aimée qui s'en allait soigner les lépreux. L'hiver revint encore une fois. Sœur Désirée des Anges avait vite compris mon goût pour la lecture. Elle m'apportait, l'un après l'autre, tous les livres de la bibliothèque des sœurs. C'était pour la plupart des livres enfantins que je lisais en tournant plusieurs pages à la fois. Je préférais les récits de voyage et je lisais la nuit à la lueur de la veilleuse. Sœur Désirée des Anges me grondait quand elle se réveillait, mais aussitôt qu'elle se rendormait, je reprenais mon livre. Peu à peu, une douce amitié nous avait liés. Le rideau blanc ne séparait plus nos lits pendant la nuit. La gêne s'en était allée entre nous et toutes nos pensées nous étaient communes. Il y avait une gaieté fine qui ne s'altérait jamais. Une seule chose lui paraissait ennuyeuse dans la vie, c'était son costume de religieuse. Elle le trouvait lourd et incommode. Elle disait avec une expression de lassitude « Quand je m'habille, il me semble que je me mets dans une maison où il fait toujours noir. » Elle s'en débarrassait très vite le soir et elle était toute heureuse de marcher dans la chambre en costume de nuit. Elle disait, avec sa petite moue, « Je commence à m'y faire, mais dans les premiers temps la cornette m'écorchait les joues et la robe me tirait les épaules en bas. » Au printemps, elle se mit à tousser. Elle avait une petite toux sèche qui ne se faisait entendre que de temps en temps. Son corps long et fin parut encore plus fragile. Elle gardait toute sa gaieté. Elle se plaignait seulement que sa robe devenait de plus en plus lourde. Pendant une nuit du mois de mai, elle ne cessa de s'agiter et de rêver tout haut. J'avais lu toute la nuit, et je m'aperçus tout à coup que le jour venait. Je soufflai la veilleuse, et j'essayai de dormir un peu. Je commençai à sommeiller lorsque Sœur Désirée des Anges se mit à dire « Ouvrez la fenêtre, c'est aujourd'hui qu'il vient. » Je crus qu'elle rêvait encore, mais elle reprit d'une voix claire « Ouvrez la fenêtre afin qu'il entre. » Je me dressai pour m'assurer qu'elle dormait, et je la vis assise sur son lit. Elle avait rejeté ses couvertures et elle défaisait les cordons de sa cornette de nuit. Elle la retira pour la lancer au pied du lit. Puis elle secoua la tête en faisant rouler ses cheveux courts et bouclés sur son front, et aussitôt je reconnus Désiré Jolie. Je me levai, un peu effrayé. Elle répéta « Ouvrez la fenêtre afin qu'il entre !» J'ouvris la fenêtre toute grande, et quand je me retournai, Sœur Désirée des Anges tendait ses mains jointes vers le soleil levant, et d'une voix soudainement affaiblie, elle disait « J'ai ôté ma robe, je n'en pouvais plus. » Elle s'étendit tranquillement, et plus rien ne bougea sur son visage. Je retins longtemps ma respiration pour écouter la sienne. Puis j'aspirai longuement, comme si mon souffle devait en même temps entrer dans sa poitrine. Mais, en la regardant de plus près, je compris que le dernier souffle était déjà sorti d'elle. Ses yeux grands ouverts semblaient regarder un rayon de soleil qui s'avançait comme une longue flèche. Des hirondelles passaient et repassaient devant la fenêtre en poussant des cris comme les petites filles, et des bruits que je n'avais jamais entendus m'emplissaient les oreilles. Je levai la tête vers les fenêtres des dortoirs dans l'espoir que quelqu'un pourrait entendre ce que j'avais à dire. Mais mon regard ne rencontra que le cadran de la grosse horloge qui semblait regarder dans la chambre par-dessus les tilleuls. Il marquait 5 heures. Alors, je ramenai les couvertures sur Sœur Désirée des Anges et je sortis sonner le réveil. Je sonnais longtemps. Les sons s'en allaient loin, bien loin. Ils s'en allaient où s'en était allée Sœur Désirée des Anges. Je sonnais parce qu'il me semblait que la cloche disait au monde que Sœur Désirée des Anges était morte. Je sonnais aussi parce que j'espérais qu'elle mettrait encore une fois son beau visage à la fenêtre pour me dire « Assez, assez !» Mélanie m'arracha brusquement la corde. La cloche, qui était lancée, retomba à faux et fit entendre une sorte de plainte. Mélanie me dit « Es-tu folle? Voilà plus d'un quart d'heure que tu sonnes !» Je répondis « Sœur Désirée des Anges est morte. » Véronique entra avec nous dans la chambre. Elle remarqua que le rideau blanc ne séparait plus les deux lits. Et, avec un geste de mépris, elle trouva que c'était honteux pour une religieuse de laisser voir ses cheveux. Mélanie passait son doigt sur chaque larme qui coulait sur ses joues. Sa tête se penchait davantage de côté et elle me dit tout bas « Elle est encore plus jolie qu'avant. » Le soleil s'étalait maintenant sur le lit et recouvrait complètement la morte. Toute la journée, je restais près d'elle. Quelques religieuses vinrent la voir. L'une d'elles lui recouvrit le visage avec un linge, mais aussitôt qu'elle fut sortie, je retirai le linge. Mélanie vint passer la veillée de nuit avec moi. Quand elle eut fermé la porte, elle alluma la grosse lampe, afin, dit-elle, que Sœur Désirée des Anges ne regardât pas encore dans le noir. 8 jours après, Belle-Œil entra dans les cuisines. Elle venait m'avertir de me tenir prête à partir le jour même. Elle tenait, dans le creux de sa main, 2 pièces d'or, qu'elle mit l'une à côté de l'autre sur le coin du fourneau, et, en les touchant du bout du doigt, elle dit « Notre mère supérieure vous donne 40 francs. » Je ne voulais pas partir sans dire adieu à Colette et à Ismérie, que j'avais souvent aperçues de l'autre côté de la pelouse. Mais Mélanie m'assura qu'elle n'avait que du mépris pour moi. Colette ne comprenait pas que je ne sois pas encore mariée, et Ismérie ne me pardonnait pas d'aimer sœur Marie-Aimée. Mélanie m'accompagna jusqu'à la porte. En passant devant le vieux banc, je vis qu'un des pieds avait cédé et qu'il était tombé dans l'herbe par un bout. À la porte, je trouvai une femme aux yeux durs. Elle me dit avec autorité « Je suis ta sœur ». Je ne la reconnus pas. 12 ans avaient passé depuis notre séparation. À peine dehors, elle m'arrêta par le bras, et d'une voix aussi dure que ses yeux, elle me demanda combien j'avais d'argent. Je lui montrai les 2 pièces d'or que je venais de recevoir. « En ce cas, dit-elle, tu feras mieux de rester dans la ville où tu trouveras plus facilement à te placer. » Tout en continuant d'avancer, elle m'apprit qu'elle était mariée à un cultivateur des environs et qu'elle ne voulait pas se créer des ennuis pour moi. Nous étions arrivés devant la gare. Elle m'entraîna sur le quai pour l'aider à porter quelques paquets. Elle me dit adieu quand son train s'ébranla, et je restai là à le regarder s'éloigner. Presque aussitôt, un autre train s'arrêta. Les employés couraient sur le quai en criant « Les voyageurs pour Paris, traversez !» Dans l'instant même, je vis Paris, avec ses hautes maisons toutes semblables à des palais, et dont les toits étaient si hauts qu'ils se perdaient dans les nuages. Un jeune employé me heurta. Il s'arrêta devant moi en disant « Est-ce que vous allez à Paris, mademoiselle ?» J'hésitais à peine pour répondre. « Oui, mais je n'ai pas mon billet. » Il tendit la main. « Donnez, dit-il, je vais aller vous le chercher. » Je lui remis une de mes deux pièces et il partit en courant. Je mis pêle-mêle dans ma poche le billet et les quelques sous de monnaie qu'il me rapportait, et conduite par lui, je traversai la voie et montai vivement dans le train. Le jeune employé resta un moment devant la portière, puis il s'éloigna en se retournant. Il avait, comme Henri Deslois, des yeux pleins de douceur et un air grave. Le train siffla un premier coup comme s'il me donnait un avertissement, et quand il m'emporta, son deuxième coup se prolongea comme un grand cri.